L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 6, Fête à la Tour Noire. La jeune et prometteuse écrivaine Zora Neale Hurston se rend à une fête au manoir de la déesse de la joie à Harlem en 1927. Zora s'appuya sur les coussins et inclina sa tête pour parler à son amie Gertie. « Comment s'est passée ta soirée au Savoy ?» demanda-t-elle. « Fred s'est-il dansé ?» Gertie hocha la tête, souriante. « C'est un vrai Oliver Twist. Les groupes étaient tout simplement à tomber. » Zora rit et leva les yeux au ciel. « Toi et ton jargon ? Voyons voir, je traduis. C'est un excellent danseur et tu as aimé la musique, c'est ça ?» Elle regarda l'élégante salle de réception du Walker Parlor, un salon chic de la 136e rue. L'espace bourdonnait de femmes attendant leur rendez-vous de coiffeur, de soins du visage ou de manucure. Une vitrine en verre présentait les savons, crèmes et produits capillaires Walker avec leur étiquette jaune caractéristique. Deux clientes se trouvaient au comptoir. Elles avaient de toute évidence été coiffées et étaient en train de payer leurs notes. L'une avait un carré avec des ondulations Marcel de chaque côté et l'autre des cheveux plus longs qui avaient été défrisés, tressés et torsadés en rouleaux couvrant les oreilles. Ses ongles étaient très brillants. Sans doute avait-il été poli avec de la poudre et une peau de chamois lors d'une manucure spéciale. Une autre femme s'approchait du comptoir et demandait le nettoyant Walker et la crème de jour hydratante, expliquant qu'elle venait d'avoir un soin du visage et qu'elle voulait essayer les produits chez elle. Zora et Gertie attendaient de se faire coiffer dans un canapé rond, tapissé de velours, au centre de la pièce, d'où Zora pouvait entendre plusieurs conversations. Une femme, assise à proximité, parlait à son compagnon de l'inscription des femmes sur les listes électorales. Tandis qu'une autre décrivait la robe perlée qu'elle comptait porter à la fête à l'étage ce samedi. Zora savait que cela signifiait l'appartement d'Alelia Walker, au-dessus du salon. Fille de la légendaire Madame C.J. Walker. Alelia était célèbre pour ses fêtes pleines d'artistes, de musiciens et d'écrivains, et connue comme la déesse de la joie. En écoutant les bavardages de la cliente, Zora comprit que Langston Hughes et Jesse Redmond Fawcett étaient attendus à la fête. Comme c'était excitant, puisqu'elle y assisterait aussi. Madame C.J. Walker avait bâti un empire international de la beauté. C.J. Walker était née Sarah Breedlove en 1867 de parents esclaves. Elle avait souffert de la perte de sa chevelure dans sa jeunesse. De nombreux savons utilisés pour laver les cheveux contenaient de la lessive, qui irritait le cuir chevelu et provoquait infections et chutes des cheveux. Sarah Breedlove travailla comme blanchisseuse, puis comme cuisinière, puis commercialisa ensuite des produits de soins capillaires pour une autre entrepreneuse noire, Annie Turnbow Malone, avant de développer ses propres produits. Les deux gammes comprenaient des shampoings à base de végétaux et des pommades contenant de la vaseline et du soufre, qui guérissait le cuir chevelu et favorisait la repousse des cheveux. Génie du marketing, Sarah Breedlove adopta le nom plus glamour de Madame C.J. Walker et utilisa des photos d'elle dans ses messages publicitaires. Ce fut une révolution qui remettait en question les stéréotypes racistes utilisés dans la publicité. Les consommateurs voyaient désormais une vraie femme noire séduisante sur des produits visant à mieux répondre à leurs besoins. Madame Walker et son ancien employeur ont professionnalisé des carrières de femmes noires dans l'industrie de la beauté. Malone a ouvert la première école de cosmétologie du pays. Et de même, Walker a appris aux femmes à être ce qu'elle appelait des culturalistes de la beauté. Toutes deux ont engagé des milliers d'agents commerciaux qui pouvaient gagner jusqu'à 3 à 5 dollars par jour, alors que beaucoup de femmes gagnaient 2 dollars par semaine en tant que bonnes. De nombreux agents ont ensuite ouvert leur propre salon. La marque Walker était un phénomène international. Elle devint la première millionnaire noire aux États-Unis et une philanthrope soutenant les écoles et les organisations noires. Walker et sa fille, Alelia, quittèrent Indianapolis pour Harlem en 1916, où elles achetèrent une grande maison de ville en dépit des pratiques immobilières discriminatoires. Là, elles créèrent une école et un salon de beauté. Alélia invitait des intellectuels et des artistes noirs à des fêtes chez elle, instaurant un autre type de salon à l'étage. De retour dans la chambre qu'elle louait, Zora s'assit à sa table, regardant par-dessus son manuscrit. Elle pouvait entendre un bus, des gens qui rentraient du travail et des enfants sautant à la corde sur le trottoir. Quelqu'un frappa à sa porte. C'était son amie Billy, une jeune et sociable sculptrice qui vivait à quelques rues de là, dans une pension de famille où les jeunes artistes pouvaient demeurer gratuitement. Billy était une source fiable d'informations sur les événements de la scène artistique et littéraire. « J'ai marché 5 blocs pour te dire que les gens du magazine Opportunity seront à la fête ce soir, » dit-elle essoufflée. « J'ai pensé que tu aimerais le savoir. Entre, merci de penser à moi. » Oui, depuis que j'ai gagné ces prix littéraires, ils m'ont vraiment aidée. Tu sais, grâce à eux, j'ai pu entrer à Barnard pour terminer le diplôme commencé à Howard. Elle ouvrit son placard et en sortit une robe rouge. « J'ai une idée pour les faire rire, » déclara Zora. « Je l'ai achetée parce qu'elle me faisait penser à la petite Isis de Drenched in Light, ma première histoire qu'ils ont publiée. Celle où Isis emprunte la nouvelle nappe de sa grand-mère pour danser lors d'un carnaval. Mon velours bleu est plus habillé, mais... » Billy joua avec le pompon garnissant la robe. « Aucun doute, mais celle-ci, tu seras adorable. Je cours à la maison sortir cette argile de mes ongles et les faire briller. Une chance que je me sois souvenue d'acheter une nouvelle poudre dentifrice. Je te verrai à la tour noire. Viens tôt, ce sera bondé. » La mode des années 1920 constituait une rupture radicale avec la tradition. Au lieu des longues robes portées sur des corsets incurvés, les tenues des femmes du milieu des années 1920 étaient plus courtes et plus droites, toujours sous les genoux, mais surtout plus courtes que celles des époques précédentes. Une silhouette libre et garçonne était en vogue, de sorte que les femmes avec des rondeurs devaient porter un sous-vêtement appelé bandeau pour s'aplatir les seins, ou une longue gaine avec des lanières pour tenir les bas, pour se composer une forme tubulaire. Les hommes continuaient de porter des costumes avec une variété de chapeaux, mais les jeunes gens élégants avaient envie de manteaux volumineux en fourrure de raton laveur. Les tenues de jour comprenaient des robes à taille basse et des jupes plissées portées avec de longs pulls. La créatrice en vogue Coco Chanel adopta le jersey, auparavant réservé aux sous-vêtements, et le rendit élégant sous forme de pull, de manteau et de costume. Les chapeaux étaient portés bas sur le front, et à la fin de la décennie, beaucoup portaient la cloche qui encadrait le visage et flattait les nouvelles coiffures courtes. Quant aux chaussures, escarpins à lanières en T ou à sangles et brides de cheville, ou les Oxford à lacets, elles avaient des talons bas et larges, et étaient portées avec de longs bas ou des chaussettes montantes aux genoux. De plus en plus de femmes faisaient du sport et nageaient. Les maillots de bain sans manches représentaient également un changement audacieux par rapport à la décennie précédente. De magnifiques robes du soir étincelaient avec des détails comme broderies, perles et paillettes, dos nu, couches de mousseline de soie et ourlets asymétriques ou frangés. Des étoffes légères et des éléments captant la lumière faisaient grande impression sur une piste de danse. Les plus téméraires jeunes femmes pouvaient rouler leurs bas et ajouter du rouge sur leurs genoux pour souligner un éclat de peau. Les chaussures de soirée scintillaient de finitions métallisées ou de boucles en strass. Et les manteaux du soir les plus luxueux étaient en velours de soie extrêmement doux. Les bijoux s'inspiraient des lignes géométriques art déco ou de la découverte de la tombe du roi Toutankhamon en 1921, laquelle déclencha un véritable engouement pour les créations d'inspiration égyptienne. Des serre-têtes appelées bandeaux pouvaient être portés le soir à la place de chapeaux. Les coiffures courtes permettaient de mettre en valeur les boucles d'oreilles longues. Il était également à la mode de porter des colliers de perles, par exemple en sautoir ou liés par un nœud. La lumière et le jazz se répandaient par les fenêtres de la maison Walker. En pénétrant dans la maison, sans passer par le salon où la veille elle avait rencontré Gertie, Zora monta les escaliers. Remerciant une jeune femme qui avait pris son manteau, Zora entra dans une pièce déjà pleine d'invités. Il y avait plusieurs canapés, un piano à queue dans le coin, des tapis au sol et de grands rideaux à la fenêtre. Les robes des femmes chatoyaient et les hommes portaient de fins costumes trois pièces. Zora vit Alélia Walker, qui tenait salon, vêtue d'une robe noire, avec des broderies dorées et de spectaculaires manches vaporeuses. Zora alla lui dire bonjour. « Bonsoir, mademoiselle Walker. Je suis Zora Neale Hurston. Je vous remercie de m'avoir invitée, » dit Zora. « Hello, appelez-moi Alelia. J'ai adoré votre histoire sur cette coquine petite fille qui parade au carnaval. Elle m'a fait penser à moi, petite fille. » Et puis vous avez gagné non pas un, mais 4 prix littéraires, dit Alelia. Oui, j'étais exactement comme Isis, me balançant à la porte, imaginant le monde extérieur, donc gagner ces prix fut tout à fait merveilleux, répondit Zora. Alelia sourit. Je vous ai entendu faire irruption à la soirée de remise des prix, jeter un foulard autour de votre cou et crier le nom de votre pièce. Quel brio! Qu'est-ce qui vous amène à Harlem? New York est le centre de l'édition et Harlem n'est-il pas le centre de New York? Je suis arrivée avec $1.50 et une valise de manuscrits. Grâce au magazine Opportunity, j'étudie maintenant à Barnard. Comme c'est épatant. Vous rencontrerez certainement des personnes avec qui parler ce soir. Maintenant, allez vous servir un verre. Zora se déplaça dans la foule, admirant les robes et le décor, l'odeur du tabac, de l'alcool illégal et du parfum. La musique sortait d'un gramophone Victrola, logé dans un grand coffret en bois. Un attroupement fouillait dans une boîte de disques et choisissait le suivant. Un homme portant un veston coloré riait tandis qu'il dansait le Charleston avec sa partenaire, jambes et coudes balancés à angle aigu. Une autre jeune femme s'écroula sur une chaise lorsque la chanson se termina, une broche étincelant dans ses cheveux courts. Zora capta la délicate effluve de lavande qu'elle associait au produit capillaire Walker et s'arrêta pour noter la gamme de coiffures exposées. Quelques femmes ressemblaient à d'anciennes sculptures, leurs cheveux rassemblés haut sur la tête et maintenus en place par des rubans. Certaines avaient des coupes courtes avec des boucles qui bougeaient en dansant. Beaucoup de jeunes femmes portaient des coiffures au carré comme la sienne, avec une partie de côté plaquée au peigne chaud avec de la glossine Walker. Elle se demandait combien de femmes de la fête avaient fréquenté le salon du bas. Zora observa le spectacle autour d'elle. Elle écrivait fréquemment sur les personnes des villes comme Eatonville en Floride, où elle avait grandi. Mais ce monde-ci demandait aussi à être mis en histoire. Les gens passaient du sud rural aux villes pour des emplois industriels et en espérant moins de ségrégation et de violence. Trouverait-il ce qu'il cherchait? Quel genre de vie construirait-il? Ses pensées furent interrompues par un cri de « Mais... » Garvey a soutenu nos entreprises, d'un cercle de jeunes gens et de jeunes femmes. Un groupe, plus discret, débattait de l'efficacité des affiches que la NAACP avait placées en ville il y a plusieurs années, demandant aux habitants de boycotter le film « Naissance d'une nation » parce qu'il faisait la promotion de stéréotypes racistes et du Ku Klux Klan. L'un des hommes discutant de ces affiches se retourna et Zora reconnut Langston Hughes. Elle l'avait rencontré lorsqu'elle était étudiante à Howard et s'était liée d'amitié avec lui une fois arrivée à Harlem. Il lui fit un clin d'œil. « Bienvenue dans la tour noire, Zora, » dit-il. « Je vois que vous avez rencontré notre déesse de la joie, Alelia. Sur quel projet travaillez-vous ces jours-ci ?» Hughes avait surnommé la maison Walker la tour noire, les universités étant parfois appelées tour d'ivoire, car c'était ici que l'intelligentsia noire de Harlem se réunissait pour échanger des idées. Tout comme la mode, les coiffures des années 1920 étaient radicalement modernes. Les cheveux courts faisaient fureur, mais les têtes couvertes de longues boucles, parfois retenues par un foulard, étaient aussi en vogue. Les femmes aux cheveux longs pouvaient les porter haut pour qu'ils paraissent courts, les assembler sur le crâne pour avoir l'air d'une déesse ou les torsader en chignon plat aux oreilles, style appelé par plaisanterie « attrape-coucou ». D'autres femmes choisissaient des coupes courtes audacieuses dénommées au carré, portées raides ou bouclées, avec ou sans franges. Des accroche-cœurs étaient formés avec de la pommade et recourbés sur le front et les joues. Les carrés les plus courts, appelés coupes Eton, étaient rasés à l'arrière. Ces styles étaient adoptés par des femmes issues de différents milieux socio-économiques et de communautés noires, blanches, asiatiques, latines, toutes influencées par une culture populaire croissante des films et des magazines. Les admirateurs de l'actrice Clara Bow, ayant appris que ses courtes boucles Auburn étaient teintes au henné, le traitement naturel devint célèbre et les femmes l'utilisèrent pour se colorer les cheveux. L'actrice Louise Brooks arborait un spectaculaire casque de cheveux noirs raides avec une frange stricte. Billy Dove était connu pour ses accroche-cœurs et Joséphine Baker faisait tenir sa coupe Eton avec sa propre marque de gel appelée Baker Fix. Les femmes qui choisissaient de se couper les cheveux pouvaient prendre des photos de leur star préférée pour que le coiffeur s'en inspire. Alors que les femmes blanches s'efforçaient de boucler leurs cheveux avec de nouvelles machines pour ondulation permanente et des fers à friser chauffant Marcel, de nombreuses femmes noires se défrisaient les cheveux. Le système capillaire Walker reposait sur un shampoing doux et des traitements cicatrisants du cuir chevelu avec une huile appelée glossine, pour ajouter de la brillance et protéger les cheveux une fois lissés à l'aide d'un peigne chaud. Les femmes blanches et noires, toutes deux, utilisaient des peignes chauds depuis le milieu du 19e siècle. Mais pour les femmes noires, le défrisage des cheveux était controversé. De nombreux hommes et femmes noires estimaient que le style lissé, à la mode, les aidait à revendiquer beauté et dignité dans une société qui leur refusait tant de droits, tandis que d'autres critiquaient ce style en disant qu'il suivait les critères de beauté des blancs qui refusaient de voir les cheveux frisés comme étant beaux. Madame C.J. Walker contourna ce débat en affirmant qu'elle était une culturiste capillaire, spécialisée dans le soin et la croissance des cheveux. Dans une interview, elle déclara « Je veux qu'une grande part des miens soit plus fière de son apparence personnelle et accorde à ses cheveux l'attention qu'ils méritent. » Te voilà. Zora se retourna et vit Billy, resplendissante dans une robe verte, avec des broches en forme de scarabée sur chaque épaule. Un serre-tête de style égyptien retenait ses boucles à la garçonne. Elle était avec un homme séduisant, doté d'une moustache et de lunettes, et accompagnée d'une femme blanche plus âgée, vêtue d'une robe de velours mauve. Zora, je crois que tu connais bien Charles Johnson et Annie Meyer. Pourquoi ne pas leur parler de tes romans, pendant que je régale le délicieux Monsieur Hughes d'une description de ma dernière sculpture, avant qu'il ne lise ses poèmes à tout le monde? Charles Johnson était le rédacteur en chef d'Opportunity, le magazine de la National Urban League. « Bonsoir Zora, dit-il. Je crois que votre robe est une référence à notre facétieuse amie et à sa fameuse nappe. » Zora rit. « Oui, en effet, j'ai pensé que cela allait vous amuser. »« Je suis ravie de vous voir, ma chère, » déclara Annie Meyer. Dites-moi, comment sont vos cours ? » Elle était une écrivaine et militante qui avait trouvé le soutien financier pour que Zora puisse s'inscrire à Barnard. Après avoir déniché du champagne, les trois entamèrent une conversation animée sur ce que cela faisait d'être la première étudiante noire à Barnard et sur la façon dont elle décrivait la vie rurale noire et la migration vers les villes dans ses histoires et ses pièces de théâtre. Harlem, dans les années 1920, était un centre de musique et de vie nocturne. Les gramophones, les premiers tourne-disques, étaient chers et les gens allaient au théâtre et dans les salles de danse pour écouter de la musique en direct. Le Savoy Ballroom, sur la 140e rue et l'avenue Lennox, disposait de deux kiosques pour de la musique non-stop et d'une piste de danse dont le revêtement était remplacé tous les 3 ans, tant il était abîmé par un usage permanent. Contrairement au Cotton Club, qui pratiquait la ségrégation, la direction du Savoy accueillait tout le monde, clients ou musiciens, uniquement préoccupés de savoir si vous pouviez danser ou jouer du jazz swing. Des films de l'époque de danseurs professionnels du Savoy montrent des femmes portant des bottes courtes ou des talons bas. Toutes avaient les cheveux courts et certaines portaient des shorts ou des culottes scintillant lorsqu'elles tournaient et faisaient des pirouettes. Les sociétés de maquillage, reconnaissant que les femmes pouvaient ne pas porter de sac à main lorsqu'elles sortaient, ont vendu des poudriers déguisés en agrafes de chaussures et des houppettes à poudre qui pouvaient être placées dans une jarretière. Parmi les autres endroits, citons le Clem House de Harry Amberi, où Gladys Bentley se produisait en smoking avec des choristes en travesti. Harlem accueillait également quelques-uns des bars clandestins illégaux de New York, qui exigeaient des cartes de membres pour entrer, et organisaient des soirées à domicile où les gens demandaient de petits frais d'entrée. Les Afro-Américains étaient souvent confrontés à des loyers plus élevés que les locataires blancs, tout en gagnant des salaires inférieurs, et les fêtes contribuaient à combler l'écart. Fats Waller, un pianiste et chanteur populaire, se produisait parfois lors de ces fêtes maison. La Grande Dépression frappa durement Harlem, avec un Afro-Américain sur 4 sans travail en 1930. Les salons de beauté noire continuèrent à fonctionner, mais la société de Madame C.J. Walker et celle de ses concurrents subirent de lourdes pertes. Harlem resta un centre de créativité et de militantisme, mais l'image romantique de danseurs insouciants cessa d'être une réalité pour la plupart des gens. Zora retrouva Billy et Alelia discutant avec des invités à côté d'une table où l'on offrait des huîtres grillées, du jambon épicé et des œufs à la diable. « Ah, la charmante Zora !» s'exclama Alelia. Elle sortit un poudrier d'argent de son minuscule sac du soir et inspecta les accroche-cœurs encadrant son visage. « Je vois que vous avez dansé. Avez-vous essayé notre poudre suprême pour le visage ? N'oubliez pas d'utiliser du démaquillant et de la crème ce soir. » Zora s'éventa le visage et hocha la tête en se servant un rafraîchissement. Alelia continua. « Mesdames, dites-moi, que pensez-vous du rouge à lèvres ? Maman n'a jamais aimé les cosmétiques. Elle pensait qu'il n'était pas convenable. Mais les temps changent, n'est-ce pas ? Dites-moi, porteriez-vous du rouge à lèvres si nos spécialistes de la beauté vous trouvaient la bonne nuance ?»« Oui, certainement, » répondit Zora, en se demandant lequel de ces nouveaux personnages de roman pourrait porter du rouge à lèvres. Tout comme elle préconisait des cheveux en bonne santé, Madame C.J. Walker vendait une gamme de produits dermatologiques, y compris de la gelée d'amamélis et du cold cream, et proposait des soins du visage dans ses salons. Alors que de nombreuses entreprises commercialisaient des décolorants pour la peau, comme un produit appelé Lucky Brown Skin Lightener, Malone et Walker refusaient de créer de tels articles. Au lieu de cela, elles affirmaient qu'une peau séduisante et saine était en soi un motif de fierté. Les gammes de produits commercialisés auprès des femmes blanches étaient également axées sur les soins de la peau. Les femmes noires et blanches appliquaient du cold cream pour hydrater et de la poudre pour lisser leur carnation. Les modes plus révélatrices augmentaient l'intérêt pour les soins de la peau, créant un nouveau marché pour les crèmes hydratantes, pour les bras et le dos. Plusieurs parfums, encore disponibles aujourd'hui, ont été lancés dans les années 1920, notamment Chanel numéro 5, L'Aimant de Coty et Chalimar de Guerlain. Clara Bow et d'autres actrices apparaissaient dans des publicités de cosmétiques et de parfums. Les cosmétiques ont été associés aux prostituées pendant des décennies et dénoncés comme artificiels et dangereux. Effectivement, de nombreux produits contenaient des substances chimiques telles que du plomb qui causait des lésions cutanées et des problèmes de santé. Mais comme les actrices et les chanteuses portaient un maquillage important de façon à être visible sur les premiers films en noir et blanc, le maquillage devint plus acceptable. Des artistes comme Josephine Baker et Clara Bow avaient les yeux lourdement maquillés, un rouge à lèvres spectaculaire et des sourcils épilés et redessinés. Pendant la journée, les femmes commençaient à porter du rouge à lèvres, du fard à joues et des poudres pour le visage dans une gamme de couleurs subtiles. Alors qu'il était considéré comme vulgaire d'appliquer du rouge à lèvres sur toute la bouche, les femmes réalisaient ce qu'elles appelaient un arc de Cupidon, en appliquant du rouge à lèvres au centre de leurs lèvres en forme de petit cœur. Pour une soirée, les femmes pouvaient ajouter un crayon à sourcils et de l'eyeliner, encore influencé par l'engouement pour tout ce qui était égyptien. Pour mettre encore plus l'accent sur les yeux, elles pouvaient utiliser le recourbe-cils nouvellement inventé ou appliquer un embellisseur de cils qui se présentait sous la forme d'un petit pain ou d'un pot avec une brosse droite miniature. Se remaquiller en public devint toléré. Les boîtiers avec de la poudre et parfois un rouge à lèvres attaché pouvaient être assortis aux tenues de soirée. Bessie Smith chantait au gramophone et les derniers fêtards commençaient à partir. Charles Johnson mit le manteau de Zora sur ses épaules lorsqu'il la vit se diriger vers la porte avec Billy. « N'oubliez pas de m'envoyer vos derniers manuscrits lorsque vous serez prête », lui rappela-t-il. Zora promit de le faire et se dirigea vers le rez-de-chaussée du manoir, bras dessus, bras dessous avec son amie, la tête pleine des images, des sons et des conversations de la soirée. «
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.